Sur le bac, regardez-moi. Je les ai encore. 15 ans et demi. Déjà, je suis fardée. Je mets de la crème tocalon. J'essaie de cacher les taches de rousseur que j'ai sur le haut des joues, sous les yeux. Par-dessus la crème tocalon, je mets de la poudre couleur chair, marque Houbigan. Cette poudre est à ma mère, qui en met pour aller aux soirées à l'administration générale. Ce jour-là, j'ai aussi du rouge à lèvres rouge sombre comme à leur cerise. Je ne sais pas comment je me le suis procuré, c'est peut-être Hélène Lagonelle qui l'a volé à sa mère pour moi, je ne sais plus. Je n'ai pas de parfum chez ma mère, c'est l'eau de Cologne et le savon palmolive. Sur le bac, à côté du car, il y a une grande limousine noire avec un chauffeur en livrée de coton blanc. Dans la limousine, il y a un homme très élégant qui me regarde. Ce n'est pas un blanc. Il est vêtu à l'européenne, il porte le costume de tussor clair des banquiers de Saïgon. Il me regarde. J'ai déjà l'habitude qu'on me regarde. On regarde les blanches aux colonies et les petites filles blanches de 15 ans aussi. L'homme élégant est descendu de la limousine. Il fume une cigarette anglaise. Il regarde la jeune fille au feutre d'homme et aux chaussures d'or. Il vient vers elle lentement. C'est visible et intimidé. Il ne sourit pas tout d'abord. Tout d'abord, il lui donne une cigarette, sa main tremble. Il y a cette différence de race. Il n'est pas blanc. Il doit la surmonter, c'est pourquoi il tremble. Elle lui dit qu'elle ne fume pas. Non, merci. Elle ne dit rien d'autre. Elle ne lui dit pas « laissez-moi tranquille ». Alors il a moins peur. Alors il lui dit qu'il croit rêver. Elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine qu'elle réponde. Que répondrait-elle ? Elle attend. Alors il lui demande « Mais d'où venez-vous » Elle dit qu'elle est la fille de l'institutrice de l'école de filles de Sadek. Il réfléchit et puis il dit qu'il a entendu parler de cette dame, sa mère, de son manque de chance, avec cette concession qu'elle aurait achetée au Cambodge. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Il répète que c'est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac, si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle. Vous vous rendez pas compte, hein, c'est très inattendu, une jeune fille blanche dans un car indigène. Il lui dit que le chapeau lui va bien, c'est très bien même, c'est original. Un chapeau d'homme, pourquoi pas ? Elle est si jolie, elle peut tout se permettre. Elle le regarde. Elle lui demande qui il est. Il dit qu'il revient de Paris, où il a fait ses études, qu'il habite Sadek, lui aussi, justement sur le fleuve, la grande maison avec les grandes terrasses, aux balustrades de céramique bleue. Elle lui demande ce qu'il est. Il dit qu'il est chinois, que sa famille vient de la Chine du Nord, de Fushuen. Voulez-vous me permettre de vous ramener chez vous, à Saïgon ? Elle est d'accord. Il dit au chauffeur de prendre les bagages de la jeune fille dans le car et de les mettre dans l'auto-noir. Chinois. Il est de cette minorité financière d'origine chinoise qui tient tout l'immobilier populaire de la colonie. Il est celui qui passait le Mekong ce jour-là en direction de Saïgon. Elle entre dans l'auto noir. La portière se referme. Une détresse à peine ressentie se produit tout à coup, une fatigue. La lumière sur le fleuve qui se ternit, mais à peine. Une surdité très légère aussi, un brouillard partout. Je ne ferai plus jamais le voyage en car pour indigène. Dorénavant, j'aurai une limousine pour aller au lycée et me ramener à la pension. Je dînerai dans les endroits les plus élégants de la ville et je serai toujours là à regretter tout ce que j'ai fait, tout ce que je laisse, tout ce que je prends, le bon comme le mauvais, le car, le chauffeur du car avec qui je riais, les vieilles chiqueuses de Bethel des places arrière, les enfants sur les porte-bagages, la famille de Sadek, l'horreur de la famille de Sadek, son silence génial. Il parlait. Il disait qu'il s'ennuyait de Paris, des adorables parisiennes, des noces, des bombes. Ah là là, la coupole. De la rotonde, moi la rotonde, je préfère. Des boîtes de nuit, de cette expérience épatante qu'il avait menée pendant 2 ans. Elle écoutait, attentive, renseignement de son discours qui débouchait sur la richesse, qui aurait pu donner une indication sur le montant des millions, mais rien. Il continuait à raconter. Sa mère à lui était morte. Il était enfant unique. Seul lui restait le père détenteur de l'argent. Mais vous savez ce que c'est, hein. Il est rivé à sa pipe d'opium face au fleuve depuis 10 ans. Il gère sa fortune depuis son lit de camp. Elle dit qu'elle voit. Je sais. À partir de son ignorance à lui, elle cède tout à coup. Il lui plaisait déjà sur le bac. Il lui plaît, la chose ne dépendait que d'elle seule. Elle lui dit « Je préférerais que vous ne m'aimiez pas. Même si vous m'aimez, je voudrais que vous fassiez comme d'habitude avec les femmes. » Il la regarde comme épouvantée. Il demande « C'est ce que vous voulez ?» Elle dit que oui. Il a commencé à souffrir là, dans la chambre. Pour la première fois, il ne ment plus sur ce point. Il lui dit que déjà, il sait qu'elle ne l'aimera jamais. Elle le laisse dire. D'abord, elle dit qu'elle ne sait pas. Puis, elle le laisse dire. Il dit qu'il est seul, atrocement seul, avec cet amour qu'il a pour elle. Elle lui dit qu'elle aussi, elle est seule. Mais elle ne dit pas avec quoi. Il dit... Vous m'avez suivi jusqu'ici comme vous auriez suivi n'importe qui. Elle répond qu'elle ne peut pas savoir, qu'elle n'a encore jamais suivi personne dans une chambre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas qu'il lui parle, que ce qu'elle veut, c'est qu'il fasse comme d'habitude il fait avec les femmes qu'il emmène dans sa garçonnière. Elle le supplie de faire de cette façon-là. Il arrache la robe, il la jette. Il a arraché le petit slip de coton blanc et il la porte ainsi, nue, jusqu'au lit. Et alors il se tourne de l'autre côté du lit et il pleure. Et elle, lente, patiente, elle le ramène vers elle et elle commence à le déshabiller. Les yeux fermés, elle le fait, lentement. Il veut faire des gestes pour l'aider. Elle lui demande de ne pas bouger, « Laisse-moi ». Elle dit qu'elle veut le faire, elle. Elle le fait. Elle le déshabille. Quand elle le lui demande, il déplace son corps dans le lit, mais à peine, avec légèreté, comme pour ne pas la réveiller. La peau est d'une somptueuse douceur, le corps. Le corps est maigre, sans force, sans muscles. Il pourrait avoir été malade, être en convalescence. Il est imberbe. Sans virilité autre que son sexe. Il est très faible. Il paraît être à la merci d'une insulte souffrant. Elle ne le regarde pas au visage. Elle ne le regarde pas. Elle le touche. Elle touche la douceur du sexe, de la peau. Elle caresse la couleur dorée, l'inconnue nouveauté. Il gémit, il pleure. Il est dans un amour abominable. Et pleurant, il le fait. D'abord, il y a la douleur. Et puis, après cette douleur, est prise à son tour. Elle est changée, lentement arrachée, emportée vers la jouissance, embrassée à elle. La mer, sans forme, simplement incomparable. Déjà sur le bac, avant son heure, l'image aurait participé de cet instant. L'image de la femme au bas reprisé a traversé la chambre. Elle apparaît enfin comme l'enfant. Les fils le savaient déjà. La fille, pas encore. Ils ne parleront jamais de la mère ensemble, de cette connaissance qu'ils ont et qui les sépare d'elle, de cette connaissance décisive derrière celle de l'enfance de la mère. La mère n'a jamais connu la jouissance. Je ne savais pas qu'on saignait. Il me demande si j'ai eu mal, je dis non. Il dit qu'il est heureux. Il essuie le sang, il me lave. Je le regarde faire. Insensiblement, il revient. Il devient désirable. Je me demande comment j'ai eu la force d'aller à l'encontre de l'interdit posé par ma mère, avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivée à aller jusqu'au bout de l'idée. Nous nous regardons. Il embrasse mon corps. Il me demande pourquoi je suis venue. Je dis que je devais le faire, que c'en était comme une obligation. C'est la première fois que nous parlons. Je lui parle de l'existence de mes deux frères. Je dis que nous n'avons pas d'argent, plus rien. Il connaît ce frère aîné, il l'a rencontré dans les fumeries. Je dis que ce frère vole ma mère pour aller fumer, qu'il vole les domestiques et que parfois, les tenanciers des fumeries viennent réclamer de l'argent à maman. Je lui parle des barrages. Je dis que ma mère va mourir, que cela ne peut plus durer, que la mort très proche de ma mère doit être aussi en corrélation avec ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je m'aperçois que je le désire. Il me plaint. Je lui dis que non, je ne suis pas à plaindre, que personne ne l'est, sauf ma mère. Il me dit « Tu es venu parce que j'ai de l'argent. » Je dis que je le désire ainsi avec son argent, que lorsque je l'ai vu, il était déjà dans cette auto, dans cet argent, et que je ne peux donc pas savoir ce que j'aurais fait s'il en avait été autrement. Il dit « Je voudrais t'emmener et partir avec toi. » Je dis que je ne pourrais pas encore quitter ma mère sans en mourir de peine. Il dit que décidément, il n'a pas eu de chance avec moi, mais qu'il me donnera quand même de l'argent, de ne pas m'inquiéter. Il s'est allongé de nouveau. De nouveau, nous nous sommes tus. Le bruit de la ville est très fort dans le souvenir. Il est le son d'un film mis trop haut qui assourdit. Je me souviens bien de la chambre. Elle est sombre. On ne parle pas. Elle est entourée du vacarme continu de la ville. Embarquée dans la ville, dans le train de la ville. Il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Il y a des stores et des persiennes. Sur les stores, on voit les ombres des gens qui passent dans le soleil des trottoirs. Ces foules sont toujours énormes. Les ombres sont régulièrement triées par les raies des persiennes. Les claquements des sabots de bois cognent la tête. Les voix sont stridentes. Le chinois est une langue qui se crie, comme j'imagine toujours les langues des déserts. C'est une langue incroyablement étrangère. C'est la fin du jour dehors. On le sait au bruit des voix et celui des passagers, de plus en plus nombreux, de plus en plus mêlés. C'est une ville de plaisir qui bat son plein la nuit. Et la nuit commence maintenant avec le coucher du soleil. Le lit est séparé de la ville par ses persiennes à claire-voie, ce store de coton. Aucun matériau dur ne nous sépare des autres gens. Eux, ils ignorent notre existence. Nous, nous percevons quelque chose de la leur, le total de leur voix, de leur mouvement, comme une sirène qui lancerait une clameur brisée, triste, sans écho. Des odeurs de camel arrivent dans la chambre. Celles des cacahuètes grillées, des soupes chinoises, des viandes rôties, des herbes, du jasmin, de la poussière, de l'encens. Le feu de charbon de bois, le feu se transporte ici dans des paniers. Il se vend dans les rues, l'odeur de la ville et celle des villages de la brousse, de la forêt. Je l'ai vu tout à coup dans un peignoir noir. Il était assis, il buvait un whisky, il fumait. Il m'a dit que j'avais dormi, qu'il avait pris une douche. J'avais à peine senti le sommeil venir. Il a allumé une lampe sur une table basse. C'est un homme qui a des habitudes. Je pense à lui tout à coup. Il doit venir relativement souvent dans cette chambre. C'est un homme qui doit faire beaucoup l'amour. C'est un homme qui a peur. Il doit faire beaucoup l'amour pour lutter contre la peur. Je lui dis que j'aime l'idée qu'il ait beaucoup de femmes. On se regarde. Il comprend ce que je veux dire. Le regard altéré, tout à coup, faux, pris dans le mal, la mort. Je lui dis de venir, qu'il doit recommencer à me prendre. Il vient. Il sent bon la cigarette anglaise, le parfum cher. Il sent le miel. À force, sa peau a pris l'odeur de la soie, celle de l'or. Il est désirable. Je lui dis ce désir pour lui. Il me dit d'attendre encore. Il me parle, il dit qu'il a su tout de suite, dès la traversée du fleuve, que je serais ainsi avec son premier amant. Mon premier amant, que j'aimerais l'amour. Il dit déjà que il sait que je le tromperais, et aussi que je tromperais tous les hommes avec qui je serais. Il dit que quant à lui, il a été l'instrument de son propre malheur. Je suis heureuse de tout ce qu'il m'annonce, et je lui dis. Il devient brutal, son sentiment est désespéré, il se jette sur moi. Il mange les seins d'enfants, il crie, il insulte. Je ferme les yeux sur le désir fort. Je pense, il a l'habitude, c'est ce qu'il fait dans la vie, l'amour, seulement l'amour. Les mains sont expertes, merveilleuses, parfaites. J'ai beaucoup de chance, hein, c'est clair. C'est comme un métier qu'il aurait, sans le savoir, il aurait le savoir exact de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire. Il me traite de putain, de dégueulasse. Il me dit que je suis son seul amour. Et c'est ça qu'il doit dire. Et c'est ça qu'on dit. Il laisse dire et faire. Quand on laisse le corps faire et chercher et trouver et prendre ce qu'il veut, et là, tout est bon. Il n'y a pas de déchets. Les déchets sont recouverts. Tout va dans le torrent, dans la force du désir. Le bruit de la ville est si proche, si près, qu'on entend son frottement contre le bois des persiennes. On entend comme s'il traversait la chambre. Je caresse son corps dans ce bruit, ce passage. La mer, l'immensité qui se regroupe, s'éloigne, revient. Je lui avais demandé de le faire encore et encore, de me faire ça. Il l'avait fait. Il l'avait fait dans l'onctuosité du sang. Et cela avait été à en mourir. Il a allumé une cigarette et il me l'a donnée. Et tout bas contre ma bouche, il m'a parlé. Je lui ai parlé moi aussi tout bas. Parce qu'il ne sait pas pour lui, je le dis pour lui, à sa place. Parce qu'il ne sait pas qu'il porte en lui une élégance cardinale, je le dis pour lui. C'est le soir qui vient maintenant. Il me dit que je me souviendrai toute ma vie de cet après-midi, lorsque j'aurai oublié son visage, son nom. Je demande si je me souviendrai de la maison. Il me dit, regarde-la bien. Je la regarde. Je dis que c'est comme partout. Il me dit que c'est ça, oui, comme toujours. Il revoit encore le visage. Je vois encore les murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l'autre porte en arcade qui mène à l'autre chambre et un jardin à ciel ouvert. C'est un lieu de détresse, naufragé. Il me demande de lui dire à quoi je pense. Je dis que je pense à ma mère, qu'elle me tuerait si elle apprend la vérité. Je vois qu'il fait un effort et puis il le dit. Il dit qu'il comprend ce que veut dire ma mère. Il dit ce déshonneur. Je le regarde. Il me regarde à son tour, il s'excuse avec fierté. Il dit « Je suis un Chinois ». Merci.